Chasson des bulles sur RCN.
Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs de l'émission Le Son des Bulles. Vous êtes bien sûr RCN 90.7. Nous sommes jeudi, il est 18h et on espère que vous allez très bien. Alors on en profite pour vous remercier de votre fidélité. Merci de nous suivre régulièrement sur l'émission et sur les réseaux sociaux. Continuez, nous ça nous fait chaud au cœur et ça nous motive pour poursuivre notre exploration du 9e art. Alors n'hésitez pas à nous envoyer des messages, à partager vos lectures, vos découvertes et à nous poser des questions sur tout ce qui tourne autour de la bande dessinée. Bref, tout ça pour vous dire qu'on vous aime beaucoup. Et on vous aime tellement qu'on a décidé de faire une émission sur le thème de l'amour.
L'amour.
Alors pour en parler autour de la table, dans le studio, on a les plus adorables chroniqueuses
du monde
et chroniqueurs que toutes les radios nous envient. Mais si. Commencez par toi, Françoise, bonsoir. Bonjour plutôt.
Bonjour. Que... Oh là là, je suis très... Bonjour.
Et 18h.
Bonjour. Je ne sais pas comment on prend une voix d'adorable.
Bonjour.
Ah non, là c'est autre chose.
Bon, en parlant d'amour, d'y voir une question intime. Un amour, allez, pour un dîner, tu serais plutôt avec Conan le Barbare, l'inspecteur Canardo ou la Schtroumpfette?
Ah, Canardo.
Canardo, direct.
Ah oui, moi je suis fan de Canardo. Conan le Barbare, des muscles, pas de cerveau, non ça ne me branche pas.
Bon, bon,
Canardo, oui. J'aime bien Canardo. Ben,
c'est ton choix.
Oui, et je le partage.
Et tu le partages.
Avec
et puis
moi.
Francine, bonjour Francine. Ça va? Tout va bien? Bon, tu as fait des bons voyages? Oui, très bien. Alors, et toi? Une croisière avec Torgal, Mafalda ou Corto Maltese?
Ah, oh, bah alors là, Corto.
Ah, bah
ah non, c'est moi qui l'ai épousé. Ah non, non, non.
Non, 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 Corto, moi, c'est une mais... flèche de 20 ans. Non,
moi,
mais...
Ah, bah moi aussi, pareil, non, on a le même âge.
Non, mais on va pas commencer. Ne vous fâchez pas, ne vous fâchez
mais
pas.
Heureusement que c'est l'amour. Hein, mais... ah, tu m'as pas proposé Corto.
Non.
J'ai fait une chronique
non, bah
comme quoi je l'ai épousé.
Eh bah oui, bah c'est tant pis. Hein.
Moi, et j'ai puis... parlé de ses fesses.
Ah oh, ouais, mais ça fait. Oui, on en parle à chaque fois presque. Hein. Qu'on ne voit jamais ou qu'on n'a vu qu'une fois d'ailleurs. Hein. Et puis derrière les, le micro, en train de manger sa galette, sa petite crème, Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Et toi alors, si je te propose voilà, un petit voyage.
Canardo ou Corto Maltese?
Batgirl, Yoko Tsuno ou Tintin? Ah ah, les trois. Tintin, d'accord. Très bien. Et puis on fait un gros bisou à David qui va bientôt sortir de son tunnel créatif, à Charles qui va bientôt sortir de son lit parce qu'il est malade, et puis à Joris qui va bientôt sortir de son train parce qu'il est parti voyager. Voilà. Donc
heureusement qu'on est là.
Heureusement qu'on est là. Et puis aujourd'hui, nous avons l'extrême honneur de recevoir un jeune et talentueux auteur de bande dessinée de Nancy, qui a déjà scénarisé 3 albums jeunesse. Ce que l'on sait de lui au travers de ses productions, c'est qu'il aime les ambiances mystérieuses, les petites énigmes à résoudre et les histoires à faire peur qu'on pourrait se raconter
chère
la
de
nuit
poule.
Autour d'un feu de bois. C'est ça, la chair de poule. Ces personnages font preuve d'un fort caractère et d'un courage incroyable, prêts à affronter des monstres et des très bizarres et les épreuves de la vie. J'ai trouvé que dans la mythologie égyptienne, son nom d'artiste, bien sûr, est lié à la planète Vénus et à la résurrection. C'est ça. Bref, tout cela, ça nous a donné envie d'en savoir un peu plus sur l'auteur et ses projets. Bonjour Benou.
Bonjour.
Comment ça va?
Bah, très bien, merci. Quand on m'a introduit aussi bien, c'est hyper agréable.
Je ne me suis pas trompé pour la mythologie égyptienne?
Non, pas du tout.
C'est ça?
Ouais, c'est ça.
Ah, très bien. Ouais,
Benou,
ouais.
C'est de la mythologie égyptienne?
Eh oui, oui.
Avec
c'est un oiseau.
Ouais, c'est ça. C'est une sorte de héron qui a un peu la même symbolique que le phénix dans d'autres mythologies.
C'est ça.
Donc voilà. Ouais, en fait, le pseudo venait d'avant. Oh. Et puis un jour, j'ai trouvé cet homonyme et je me suis dit, super. On dira ça en interview, ça fera plus intelligent que la vraie raison.
C'est ça, d'accord. Bon, bah, c'est très bien, Benou, et pas Monsieur Benou, comme certains l'avaient dit à un moment donné.
Mais on l'embrasse.
Et on l'embrasse beaucoup, bien sûr. Ben, là, il est un petit peu dans le Lot, tu vois, il est assez loin, il est au soleil peut-être.
On va pas le plaindre.
Non, pas du tout. Alors, du coup, on va essayer de faire un peu plus ample connaissance avec toi. Hein. Ceux qui nous suivent régulièrement se souviennent sans doute de ta venue en avril 2022 avec Sylvie Bessard pour nous présenter la sortie de Clos et Couette, ta première bande dessinée. Alors, est-ce que tu peux nous rapidement nous rappeler qui est Clos et qui est Couette et aussi ce qu'elles sont devenues depuis?
Alors, Clos, c'est une petite fille qui adore jouer à la détective privée, donc qui est évidemment une vraie détective privée. Et Couette, c'est sa chouette de compagnie qui l'accompagne dans ses aventures et dans ses enquêtes. Et toutes les deux, elles sont invitées au musée pour résoudre un mystère absolument hyper important, à savoir la disparition d'un objet tout à fait crucial dans un musée, le sandwich du conservateur.
Bah oui, sans le sandwich, on fait rien.
Mais ce qu'elles sont devenues, bah, oui. Avec Sylvie, on va pas faire de tome 2 de Chloé Couette, mais par contre, on fera d'autres histoires ensemble. Donc peut-être qu'on y trouvera l'essence de Chloé Couette, je pense, dans d'autres personnages.
D'accord, voilà. Très
sera
bien.
Ce sera notre brouillon Chloé Couette.
Oui, c'est, c'était
une série monde presque.
C'est
une
quoi
série monde.
Ouais, peut-être.
Une série monde. Qu'est-ce que c'est une série monde?
Une série monde, ben tiens, justement, comment la cuisine des ogres est une série monde. C'est-à-dire qu'on va, ce sont tous des volumes indépendants, des opus indépendants, mais on va retrouver qui va mettre l'accent sur un personnage différent à chaque fois.
Ah, différent. D'accord. Ah d'accord. Voilà.
Très bien.
Ouais, voilà. Je pense que Chloé Couette seront toujours des figurantes
voilà,
de nos BD à Sylvie et moi.
On a un peu ce côté-là, ouais.
Voilà, on va essayer en tout cas de les cacher dans les décors.
Alors maintenant, on va écouter ça. Voilà, voilà. C'est la musique des Contes de la Crypte, parce qu'en 2022, en même temps, tu sortais avec Christian Dutertre le tome 1 des Petits Frissons.
Avec oui. Charles Dutertre.
Charles Dutertre, très bien, je vais le changer. Et donc, les Petits Frissons, l'histoire de Rose, Lily et Charles, un trio intrépide d'une petite dizaine d'années, qui aiment se faire peur. Enfin, pas tous, hein. Il y en a des plus courageux. Ben alors, est-ce que tu peux nous raconter aussi cette histoire-là, des Petits Frissons?
Ben ouais, en fait, Petit Frisson, c'est venu de mon envie de faire Chair de Poule, mais pour enfants. Enfin, pour encore plus jeunes enfants, parce que c'est déjà pour enfants. Et donc, j'ai eu envie de raconter l'histoire de ces trois enfants qui sont mis au défi, parce qu'à la base, ils aiment bien se faire peur, mais pas non plus trop. Et surtout, ils aiment bien relever les défis de leurs grands frères et grandes sœurs, et donc particulièrement de la grande sœur d'un d'eux, qui leur dit « Allez chercher des bonbons dans cette maison, elle est hantée, par contre, si vous le faites pas, vous êtes des gros bébés. » Donc
c'est
forcément,
ça.
Il faut y aller.
Oh, l'insulte suprême.
Bah ouais, c'est clair. On n'a pas envie d'être un gros bébé.
Et donc voilà, il y a toute l'aventure qui tourne autour de... Bah, c'est pendant Halloween, hein, d'ailleurs.
Exactement.
Et autour de la maison de la sorcière. Et ça finit, ce tome 1, sur un suspense incroyable. Hein, parce que
ouais.
Là, il se passe un truc.
Ouais, exactement.
Il se passe un truc, on va pas tout dévoiler. Mais il se passe quelque chose. Et... Alors, il y a une suite ou pas?
Mais oui, bien sûr. Alors, il y a une suite qui sort en début mars, le 5 mars. Toujours avec Charles au dessin. Et qui raconte, ouais, qui prend la suite, en fait, à la fin de... Donc, c'est marrant que tu aies utilisé un extrait des Contes de la Crypte, parce que souvent, dans les comics des Contes de la Crypte, d'où sont tirées la série, il y avait un extrait de l'épisode à venir, enfin, du comics à venir, à la fin du précédent. Et donc, moi, j'avais envie de faire un peu ça sur Petit Frisson. Donc, à la fin du premier Petit Frisson, il y a un chapitre supplémentaire qui est, en fait, le premier chapitre du tome 2. En tout cas une prémisse, un peu comme une bande-annonce, un teaser exactement.
Un teaser, ouais, c'est ça. Ouais, exactement.
Et donc on a fait la suite avec Charles qui raconte ce qu'on commence à percevoir dans le tome 1.
Et c'est vrai que par rapport au Conte de la Crypte, il y a aussi cette espèce, comment on peut l'appeler, d'animateur, le squelette,
ouais,
là, qui arrive au début et puis à la fin. Là,
c'était totalement l'inspiration. Moi, j'adore le Crypt Keeper, il s'appelle comme ça, le gardien de la crypte, des Contes de la Crypte. J'adore ce personnage, il est super. Et je voulais vraiment faire la version enfant. Donc j'en ai parlé à Charles qui m'a dit « Ok, je te fais ça ». Et qui m'a fait ce squelette-là, à moustache, génial.
Oui, qui est très humoristique.
Oui,
c'est
ça, exactement. Qui fait
des petites blagues et on retrouve vraiment l'esprit. Alors, autant, bah, du coup, moi, ça m'a fait regarder les Contes de la Crypte. Je suis retourné sur YouTube, j'ai regardé les Contes de la Crypte et ça m'a rappelé plein de souvenirs. Et donc, dans le tome 2 sort au mois de mars, tu as dit.
C'est exactement, le 5 mars.
Le 5 mars, voilà. D'accord. Et on va découvrir la suite de cette histoire.
Bah oui, mais le titre spoile presque ce qui se passe, quoi. Il s'appelle Petit Frisson, tome 2, La Disparition.
La Disparition.
Donc,
Donc voilà. On se doute bien
qu'il y a quelque chose qui disparaît. Et c'est pas un sandwich cette fois.
Mais en même temps, qui va disparaître, comment, ouais, tout voilà, ça. Bon, ça a encore plein de mystères dans tout ça. Alors, c'est un album jeunesse aussi, mais moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, hein, franchement.
Cool, merci, bah, trop bien.
Bah oui, parce qu'il y a en fait ces références-là qui sont peut-être un peu plus adultes que pour des albums, enfin, que pour des enfants, quoi.
C'est vrai.
Et puis, en 2023, sort l'album Léo la Terreur avec Nancy Delvaux. Je ne me suis pas trompé ce coup-ci, non, c'est Nancy.
Parfait.
Et au dessin, et toujours je ne sais pas qui, hein, parce que tous les albums qu'on a cités, c'est je ne sais pas qui aussi.
Oui, exactement, dans une collection qui s'appelle Canaille.
Canaille, c'est ça. Et là encore, on suit une jeune fille.
Dès 6 ans.
C'est ça.
C'est sous-titré, dès 6 ans. Oui. Première lecture, entrer dans la lecture, c'est agréable à,
ben oui, oui, oui,
à offrir.
Oui, c'est ça, hein, parce que là, on suit une jeune fille, Léo, qui est contrainte, bon gré malgré, de rencontrer le nouvel amoureux de sa maman.
Ouais.
Et la fille de celui-ci, bien sûr. Alors, le week-end va être plein de surprises et ça va être un petit peu bizarre parce que ça va tourner un petit peu dans le mystérieux.
Oui, c'est ça. C'est dans une bonne façon de le dire sans, alors, sans dévoiler.
C'est difficile.
Ouais. C'est dur d'en parler sans raconter la fin. Surtout, bah, si on évoque le tome 2 après, ça va être encore plus dur d'en parler sans parler de la fin du tome 1, mais oui.
Mais c'est pareil.
Ça, on tombe un peu dans le fantastique.
Et c'est pareil, dans le tome 1, il y a aussi un suspense à la fin.
Mmh.
Ouais, t'aimes bien
encore
faire ce genre de choses. Hein.
Ouais, ouais, j'adore.
À attirer un petit peu, à faire ces petits teasers, en fait, ces choses qui vont attirer le tome 2. Tu
alors,
l'as lu,
Oui, oui, je l'ai lu. Alors, je ne veux surtout pas raconter la fin, je ne veux surtout rien raconter. Je voudrais juste faire une allusion. Dans mes premières lectures de Cabu, je me souviens de Cabu qui était à l'école dans le Grand Duduche et qui... Bon, une classe infernale, et pour les calmer, on leur envoie un prof, c'est un Panzer, quoi. L'Allemande dans toute sa caricature dans les films avec des tresses, elle fait un mètre cube sur un mètre cube, enfin voilà, elle est immonde. Elle dit, j'ai tout vu, vous mourrez jamais. Effectivement, ils essayent de la voir. Et le grand Duduche a trouvé le truc, c'est qu'il s'approche d'elle en fin de cours et il lui dit, je vous aime. Et là, elle tombe. Et ce côté décalé, donc sans spoiler ni rien, je trouve ce côté décalé, surprenant, que je retrouve là où en principe d'aïkido, quand on pousse, on tire, quand on tire, on pousse. Voilà, donc tout ça, c'était l'allusion, c'est ce à quoi ça m'a fait penser, de cette petite fille qui découvre une famille, on a dit surprenante, incroyable, voilà, etc., etc.
Ah bah oui. C'est parfait. Mais moi, ce que je dis souvent, si ça peut aider à faire un résumé sans spoiler... Quand j'en parle, quand je fais des ateliers par exemple ou en dédicace, c'est que Léo adore faire peur aux gens et elle va rencontrer une famille qu'elle a beaucoup plus de mal à effrayer qu'à l'habitude.
Ah oui, mais
pour le coup, ouais.
Voilà. Et on comprend petit à petit pourquoi elle a du mal.
Et oui, dans Léo aussi, il y a tout ce mystère, hein, puis cet univers un peu fantastique, mais c'est aussi un sujet un peu plus sérieux.
Ouais.
C'est les familles recomposées, retrouver, intégrer un enfant qui s'intègre dans une famille qu'il n'a pas forcément envie. C'est aussi des sujets qui te tiennent à cœur ou que...
C'est rigolo ce sujet-là parce que, en fait, l'histoire de Léo la Terreur, elle vient de Nancy à la base, qui voulait faire l'histoire de
Nancy Delvaux.
Nancy Delvaux, ouais, exactement. Oui, il ne vient pas de Nancy la ville. Aussi parce qu'on l'a écrit à Nancy, mais bref. Donc Nancy Delvaux voulait raconter l'histoire de cette petite fille un peu turbulente qui embête son beau-père et puis son demi-frère, etc. Et quand elle nous a demandé si on... Donc quand je dis nous, c'est à Stéphane Godefroy à l'époque qui était éditeur sur ce livre-là et à moi-même, si on pouvait travailler tous ensemble parce qu'elle avait besoin d'un scénariste. Moi, je me suis rendu compte que j'avais pas grand-chose à raconter sur les familles recomposées et sur le divorce, etc. Parce que mes parents sont pas divorcés.
Des mauvais parents.
Ouais. Oh non, ils s'aiment. Non, mais c'est...
Cette émission leur est dédicacée.
Et voilà, cette émission sur le thème de l'amour, c'est
voilà.
Parfait. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai eu besoin d'insuffler quelque chose d'autre dans cette histoire. D'où l'aspect fantastique et mystérieux que j'ai... mis un petit peu à petite goutte dans le tome 1, puis j'ai renversé tout le saut dans le tome 2.
D'accord. Et le tome 2, il sort quand alors, pour le coup?
Le 5 mars aussi.
Le 5 mars aussi. Donc tout va sortir d'un seul coup.
Exactement.
Là, tu parlais, donc c'est vrai que tu as un besoin, toi, en fait, de rajouter un peu de mystérieux, ouais. un peu de monstre. C'est quoi qui enrichit, qui t'enrichit son univers, tes références
Mais je pense que... Il y a beaucoup de mes références qui viennent de traumatismes d'enfance, enfin de traumatismes.
Tu veux qu'on en parle?
Non. En tout cas, de rencontres culturelles marquantes. On parlait des contes de la crypte tout à l'heure, mais on peut aller un petit peu plus loin, un petit peu plus tôt dans ma vie. Et chair de poule, c'est hyper important. Il y a une gradation dans l'horrifique dans ma vie. Au début, moi, je suis hyper peureux de tout. J'ai peur de tout, quoi. Donc, je suis très sensible à tous les domaines horrifiques parce que tout me parle. Et je pense que je suis pas seul à écrire des histoires qui font peur quand on a peur. C'est Stephen King qui disait ça dans une interview quand on lui demandait « Et vous, de quoi avez-vous peur ?» Il disait « Mais de tout. » C'est pour ça que je peux écrire sur toutes
D'accord.
ces peurs et toutes ces
phobies. D'aller où on a peur, effectivement.
Ouais, exactement. Et donc, cher de peur. Les chairs de poule, en fait, au début, je regardais les pochettes, les couvertures de loin, et c'était assez effrayant, c'est très visuel, très graphique. Mais en même temps, ça m'attirait beaucoup, je sais pas pourquoi, parce que ça me plaisait. Donc petit à petit, je les regardais de plus en plus près, puis au bout d'un moment, on commence à lire les quatrièmes de couverture, jusqu'au moment où on emprunte un, et là, on rentre dedans et c'est...
Et après, c'est fini.
Et
quoi.
Après, c'est pour toute la vie. Quoi.
C'est pour toute la vie. Voilà. Et tu disais aussi, quand tu étais venu, qu'en fait, tu t'es mis à la bande dessinée. Tu étais rentré parce que tu baignais dedans depuis très longtemps. Je me suis demandé, ça veut dire quoi, baigner dans la bande dessinée? Tu dessinais, tu lisais beaucoup?
Tu les volais?
J'ai jamais volé de BD, je crois.
N'appelle pas la police.
Non, mais j'en lisais beaucoup, beaucoup. En fait, quand j'étais petit, j'étais assez gros lecteur, donc je lisais beaucoup de manière générale. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était super agréable de lire des BD parce que ça permettait d'en lire 3-4 en l'espace d'un roman, en temps de lecture. Donc ça permettait d'en lire plus et plus vite. Et puis j'aimais le dessin, quoi. Il y a encore ce rapport graphique qui me plaisait. Et en plus, dans la BD, je m'identifiais beaucoup plus facilement aux personnages. Par exemple, j'ai un personnage que j'adorais quand j'étais petit, qui est le personnage de Kid Paddle. Qui est génial. Et dans Kid Paddle, on retrouve... Le cinéma fantastique, toute cette culture-là. Ça permettait, ou même dans Titeuf, on a ça aussi, ça permettait en fait d'avoir, via des parodies ou des fausses affiches, des petites bribes de culture horrifique qui ensuite m'ont permis de creuser quand j'étais adulte et que j'ai pu enfin découvrir ce monde-là. Donc je lisais beaucoup de BD et quand j'ai commencé à être un adulte indépendant avec un salaire, quoi. Je me suis rendu compte que j'adorais dépenser mon argent pour acheter des livres et pour les avoir pour moi. Enfin, j'ai toujours aimé avoir les livres pour moi, mais les BD particulièrement. Donc, je me suis mis à traîner beaucoup à la parenthèse, etc. Et à beaucoup acheter des BD.
Mais tu dois aimer transmettre, parce que là, je suis allé chercher une bande dessinée à la médiathèque à côté, à la médiathèque de Haut-du-Lièvre, et ils te connaissent. T'es passé au mois de septembre.
Ouais, c'est avec ça, j'ai classes. Fait un atelier ou des ateliers avec eux. J'adore faire des ateliers, et particulièrement en médiathèque, c'est vraiment super. Et la médiathèque, elle est trop cool.
Ah, elle est magnifique, cette médiathèque du Haut-du-Lièvre, oui. Ouais.
Et donc, tu parlais des achats, et ton dernier achat BD, ce serait
Mon dernier achat BD, alors, si je sais, c'est Shin Zero.
Je suis en train de le lire.
Voilà, de Saint-Gelin et Mathieu Bablé, que j'ai super hâte de lire. Alors, j'ai triché, c'est pas exactement mon dernier achat. Il n'est pas encore acheté, mais il est mis de côté à la parenthèse, il faut que j'y aille.
D'accord.
On va dire que c'est ça.
Et donc, à la fin, il se...
Non, je ne crois pas, tu t'as dit que tu étais en train de le lire.
C'est vrai.
Mais de toute façon, c'est pas grave, ça me gâche pas le plaisir de la lecture de savoir la fin.
Bah disons que là, je suis en train de le lire et j'ai hâte de finir l'émission pour aller le relire parce que
ça
prend bien.
C'est gentil de rester avec nous, Olivier,
jusqu'à
la fin. Oui,
je vais rester jusqu'au bout. Et donc, alors, pour continuer un petit peu cette découverte aussi, tu as fait 3 albums déjà, donc les 2 autres qui vont sortir, avec des scénaristes différents.
Non, dessinateurs.
Des dessinateurs différents.
Comme Christian,
comme Nancy, etc. Donc, 3 dessinateurs différents. Comment ça se passe, les rencontres? C'est toi qui sollicites? Tu repères, tiens, dessinateur, tu dis, je vais l'appeler parce que j'ai une histoire, etc. Comment ça se passe?
C'est plutôt l'éditeur qui fait ce travail-là. En tout cas, pour ces 3 premières histoires, on va dire ces 3 premiers univers, c'est l'éditeur qui a fait le travail pour moi. À l'exception de Nancy qui est venue avec son histoire et qu'on a modifié ensemble. Mais parfois, ça peut être aussi au gré des rencontres. En ce moment, je travaille sur d'autres projets avec d'autres dessinateurs et dessinatrices qui sont des artistes que j'ai rencontrés en salon. Et avec qui le courant est bien passé et pour qui j'ai eu envie d'écrire des histoires et qui, eux, avaient envie de les dessiner. Donc, ça tombe bien.
Et, ça match.
Ouais, voilà, yeah. Exactement.
Impeccable. Et puis, du coup, toi, tu dessines pas, en fait.
Non.
Non, tu dessines pas. Alors, tu as toujours travaillé. Vous travaillez du. Mais alors, quand tu vas sur les salons, tu fais quoi alors? Parce que je t'ai vu en dédicace.
Ouais. Ah, tu signes seulement. Je fais semblant.
Non, tu fais semblant? Non.
Non, justement. En fait, comme les lecteurs de bande dessinée sont habitués à avoir des belles dédicaces, à avoir des beaux dessins, moi, j'ai essayé de m'aligner un petit peu. Donc, je fais des belles calligraphies.
Et je fais des faute d'orthographe.
Ah, ouais, c'est bien. Sauf la sienne.
Ah, mais, collector.
Ouais, collector. Il est collector parce qu'il y a une blague avec. Ouais.
En plus, oh là. Garde-le, hein, tu sais jamais.
Donc ouais, voilà, je fais des j'aime bien faire des parce que je suis graphiste en fait. Oui. Mon métier, mon autre métier, c'est graphiste. Donc je connais un petit peu la calligraphie et les typos et donc j'ai des typos différentes pour chaque album.
Et est-ce que c'est toi qui fais le découpage de l'album ou alors
oui.
Est-ce que tu...
aussi. Ouais, aussi. C'est vrai que j'ai quand même une partie où je dessine un petit peu parce que j'aime donc effectivement bien faire le découpage.
Donc tu fais un storyboard.
Ouais. C'est ça, avec des bonhommes bâtons ou des petits croquis vraiment hyper moches. Mais juste pour comprendre, pour faire comprendre au dessinateur ou à la dessinatrice. Après, ça dépend avec qui. Avec Sylvie, on s'était mis d'accord sur le fait que j'avais pas à faire de storyboard et que je lui faisais une proposition de découpage.
Oui.
Ce que j'ai aussi fait pour le tome 2 de Léo la Terreur et pour le tome 2 de Petit Frisson. En fait, j'ai appris à le faire comme ça avec Sylvie et je me suis dit que c'était une bonne idée de continuer à le faire. C'est très très bien de le faire comme ça.
Ce qui donne plus de liberté au dessinateur.
Carrément, complètement. De toute façon, pour moi, le dessinateur, il doit toujours avoir le dernier mot et imposer des choix graphiques à un dessinateur, c'est aller droit dans le mur. Quoi.
Après, tu disais que l'autre fois aussi, que tu suivais beaucoup quand même le dessinateur pour être avec lui aussi, que pour éviter qu'il soit tout seul, quoi, aussi.
Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, je l'ai appris par l'expérience, quoi, très vite, avec Charles Duterte, à qui donc j'ai laissé plein j'ai fait juste des croquis et je lui ai donné quelques références visuelles, mais très peu. Donc, je voulais vraiment qu'il fasse un peu ce qu'il avait envie de faire. Et la seule sur laquelle j'ai appuyé vraiment en lui disant « Je veux absolument que ce soit ça, Charles.
Ah oui.
Vraiment, je veux que ce soit ça. » Il a oublié et il ne l'a pas fait. Et finalement, quand j'ai reçu la page, je me suis dit « Je crois que c'est mieux, quoi. » Ça allait faire marrer quelques geeks avec la culture horrifique et moi-même. Mais
pas
grave. Ouais, voilà, je préfère qu'on ait notre truc à nous. Et ça, je trouve ça pas mal.
Dans les projets que tu as, donc là, tu travailles en binôme, mais t'as des projets solo, des choses que t'as envie de faire tout seul ou...
Bah ouais, j'ai plein d'idées à développer. Et quand les idées, donc c'est des bribes de scénarios, des embryons de scénarios, et quand elles sont à cette époque, à cette étape-là, je sais pas encore à quoi elles devraient ressembler à la fin, donc peut-être que ce sera une BD, peut-être que ce sera un roman photo, peut-être que ce sera un roman tout court, j'aimerais bien en faire. Donc, j'aimerais bien explorer d'autres
styles de narration. Un roman, ça veut dire passer à l'écriture uniquement,
ouais,
c'est ça ?
Ouais, j'aimerais bien, ouais. Ah. Peut-être, j'y réfléchis sur certaines des idées que je note, en tout cas. Je me dis qu'elles seraient bien à l'écrit seulement, elles pourraient marcher en tout cas à l'écrit seulement. Donc voilà, je ferme jamais aucune porte là-dessus sur le médium. Et ouais, dernièrement, j'ai fait aussi une expérience en solo d'écriture, parce que j'ai fait une traduction d'un comics américain.
Une BD, là, t'as traduit
Oui, exactement. Donc, c'est une BD qui s'appelle en américain Poppy's Inferno, qui est un comics issu de l'univers d'une chanteuse que j'aime beaucoup, qui s'appelle Poppy. Et donc, l'éditeur m'a contacté en sachant cette donnée-là, que j'aimais beaucoup son travail à elle, en me disant qu'il aimerait bien avoir l'avis d'un fan et d'une personne qui connaisse l'univers de cette personne pour traduire les références, traduire au mieux ces choses-là. Et donc, je lui ai dit, ouais, si tu veux, je fais toute la traduction. J'avais super envie de le faire.
Carrément.
Et donc, il m'a dit oui. Donc, c'était ma première traduction. J'ai hyper hâte qu'elle sorte. Merci.
C'était
super intéressant, en fait,
alors,
comme le travail.
Alors, ça sort quand, ça ?
Alors, je prends mes petites notes.
Scoop.
Ouais, c'est vrai.
Donc, on est en première mondiale, il n'y a que nous qui le savons.
Alors, sur la FNAC, ils le savent aussi. Donc, ça va s'appeler en français L'Enfer selon Poppy. C'est écrit par Poppy et Ryan Caddy. C'est dessiné par Amilcar Pina et Zoé Thorogood. excusez du peu.
Torogood, oui.
Et ça sort chez Blumann le 10 avril. Hein.
10 avril.
Voilà.
Faut le noter, les amis. Hein. 10 avril.
c'est une des premières BD de Zoé Torogood. D'accord. Donc, en ce sens, c'est assez intéressant de la sortir, je trouve. Mm-hmm. Parce qu'elle va exploser là, quoi, je pense.
Ah oui. Ouais. Oh, bah super. Ça, on a hâte de s'y retrouver. Ouais. Eh bien, écoutez, c'est très bien. Déjà, on en sait beaucoup plus sur toi maintenant.
Complètement.
Hein. Ah ouais, bah, après, moi, j'aurais encore plein de questions à poser. Il y a des choses qui me questionnent, mais bon, on n'a pas forcément tout le temps.
Oui, puis il faut retourner lire Shin Zero.
Il faut retourner lire Shin Zero. Voilà, voilà. Donc, on parlait que tu volais des livres, mais que tu ne volais pas de livres.
Non, en fait, du tout.
J'ai pas dit, j'ai posé la question.
Fait. Oui, tu as posé la question. Oui. Ça m'a fait penser à Justice.
Ah, c'est vrai.
Et
ah
donc, bah, voilà, oui. La Justice. Et donc, tu nous as proposé une pause musicale avec le titre...
Mannequin Love, qui est issu de leur dernier album qui s'appelle Hyperdrama, qui est un chef-d'œuvre, je trouve, en toute objectivité. C'est mon groupe préféré, donc il n'y a aucune objectivité. Mais si je fais l'effort d'objectivité, je trouve que c'est un excellent album. Et j'adore cette chanson, Mannequin Love, featuring The Flints.
Eh ben, on va faire notre idée nous-mêmes. Voilà, merci. Must be more than mannequin love.
Le son des bulles sur RCN.
Eh ben voilà, bah écoute, On a aimé, hein, même si tu n'as papoté un petit peu pendant la pause, mais c'est vrai que, puis en plus, tu nous as donné envie d'aller les voir pour leur prochaine tournée en France. Et donc voilà, alors merci pour tout ce qu'on s'est dit, et tu n'hésites pas à intervenir quand tu as envie, il n'y a pas de problème.
Si on veut.
C'est quand on veut. De toute façon, on a des boutons maintenant, on sait qu'on peut couper quand on veut.
Ça va être joyeux.
Ça va être joyeux maintenant, on va pouvoir s'amuser.
C'est quoi le thème de l'émission aujourd'hui?
Alors c'est l'amour, l'amour, c'est gentil de nous le rappeler.
C'est l'amour vache quand même.
C'est l'amour, voilà, donc on va parler d'amour dans bande dessinée. Et on va commencer par toi, Françoise.
Oh la chance, oui. Merci. Alors moi, l'ouvrage m'a emmené là où je ne voulais pas aller, mais je vais parler de l'amour qui s'étiole. C'est aussi de l'amour, ou une fin d'un amour, où il y a eu de l'amour, avec un titre qui s'appelle « 60 printemps en hiver », aux éditions Dupuis, collection Air Libre. Et Air Libre, c'est vraiment le symbole de cet ouvrage de 110 pages. Il y a vraiment de quoi prendre l'air. Parce que c'est ça l'histoire, c'est celle de Josie. Josie, donc, c'est une femme de 60 ans. 60 ans aujourd'hui, et c'est son anniversaire. Grand-mère, mais que tout agace. Les cris de ses petits-enfants, enfilés sans y réussir du fil sur une aiguille. Enfin, des tas de petits détails comme ça. C'est ce qu'on appellerait actuellement la charge mentale. Alors vraiment, trop c'est trop, tous ces milliers de petits trucs qui sont pas intéressants et qui envahissent le temps, qui envahissent la tête, qui envahissent la vie. C'est la lassitude, le poids sur ses épaules, donc. La faim ou l'envie d'en finir. À page 12, on voit vraiment, elle est de dos et on voit vraiment tout ce qui lui pèse sur les épaules. On le voit, on le sent. Alors là, le jour de son anniversaire, elle décide de partir. Elle prend sa valise, elle part, elle quitte tout. Alors, elle aurait quelque chose à dire, mais alors, ses enfants qui ont fait le gâteau lui reprochent de partir. Mais tu peux pas laisser papa et tes petits-enfants et tout. On lui demande rien, il y a aucune empathie, il y a absolument rien. Elle s'en va, elle se fait engueuler en plus. Alors, il n'y a pas de pourquoi, des reproches, de la colère. Enfin, c'est vraiment quelque chose. En plus, on lui dit le jour de ton anniversaire, comme si c'était plus grave de partir le jour de son anniversaire qu'un autre jour. Alors, elle part, ça, elle sait qu'elle part. Mais alors, où, qui, que, quoi, donc, où, comment, ça, elle sait pas. Mais elle verra bien, c'est pas ça le plus important effectivement. Pendant les jours, elle s'en va, elle prend sa valise, elle monte dans un espèce de Volkswagen, un bus Volkswagen, et puis elle avance. Et alors les appels de sa famille dans les jours suivants sont culpabilisants, c'est égoïste, c'est harcelant, ils sont insultants, t'es partie comme une voleuse, à quoi tu joues, comme si elle avait 4 ans. Et là vraiment on voit bien qu'il n'y a plus d'amour, pas d'amour là-dedans, l'amour au quotidien, l'amour de tous ses proches qui fait que c'est une famille, qu'on a des petits mots, des petites attentions, qu'on est attentif les uns aux autres. L'amour avec un petit A, mais c'est celui au quotidien qui rend la vie sous douce. Alors elle a eu un déclic, elle a eu ce déclic justement, et elle est partie. Alors après, peu importe. Alors tout le reste du livre, effectivement, c'est une belle histoire. Il n'y a pas de fantastique, contrairement à d'autres. Là, c'est une vie qui est faite, elle va se faire une vie faite de quotidien, mais alors d'air, de liberté, de petits rires, d'amusement, de petites joies, de vie. Le plaisir de remettre une robe ou un petit bijou. Enfin, voilà, le fait de sortir, de se dépoussiérer, de respirer, hein, je dis bien, collection Air Libre. Alors elle va rencontrer le club des villes. Les vilaines libérées, c'est pas des militantes, non, c'est des femmes qui sont lassées, 50, 60 ans à peu près. Elles sont pas usées, mais elles sont lassées et qui s'ennuient, qui trouvaient le temps long dans leur vie, dans leur famille. Voilà, il y avait plus d'attrait, il y avait plus rien. Alors elles se disent comme des sorcières qui broient les cœurs et qui brisent les familles, mais des sorcières qui veulent danser. Et ça, c'est beau, je trouve. De toute façon, on a toujours traité les femmes de sorcières, on les a brûlées, surtout quand elles veulent danser. Et ben voilà, c'est ça. Elles se font cramer dans les familles, effectivement. Et c'est ça depuis toujours. Alors elle va faire des rencontres, elle va faire des soirées, elle va tomber amoureuse. C'est des corps de 60 ans, mais eh ben voilà, c'est le plaisir de vivre quand même, de la vie au quotidien. Il y a, c'est pas de la passion, tout est dans la douceur du quotidien. Alors je dirais bien ordinaire, mais sans que ça soit banal, quoi. C'est ce quotidien. Les enfants, ils décolèrent pas, ils comprennent pas. Elle bouge les lignes, elle vit, mais elle avance, mais c'est pas forcément facile. Hein. Est-ce qu'elle aura le courage de franchir un pont de plus, dit-elle. Voilà, c'est une histoire de liberté qui s'offre à 60 ans, qu'on s'offre à 60 ans. À quel prix? Mais parce que c'est vital. C'est ça ou alors se faire enterrer vivante. S'enterrer vivante et s'enterrer soi-même, c'est pas possible. On n'est jamais si bien asservi que par soi-même. C'était Mystique qui écrivait ça. Alors on la suit dans ses doutes, dans ses envies. C'est pas de tango, un peu en avant, un peu en arrière. Ça va trop vite, c'est pas possible. Et puis en même temps, voilà. C'est une montagne russe d'émotions qui est différentes pages de vie. C'est doux et c'est rude à la fois. Le dessin, il est flou, il est pastel. C'est le fameux Sfumato de Léonard de Vinci. Hein, tout en couleur, mais pas de sombre. Ça donne de la douceur, de la délicatesse, de l'hésitation, comme un brouillard. Alors, moi qui ai 60 ans, là, je parlais de moi, je m'y suis reconnue. J'ai reconnu mes copines qui ont 55, 60 ans, qui partent. Alors, pas pour faire le tour du monde, non, c'est pas pour avoir une Audi, mais c'est pour pouvoir respirer, pour pouvoir réfléchir sur son usure, sur sa fatigue. Moi, c'est beau, c'est pas forcément joyeux, hein, c'est pas un truc où on meurt de rire, mais c'est pas triste non plus. C'est une nouvelle page de vie, une nouvelle tranche de vie. Elle a du brouillard dans la tête, elle lui dit, comme il y a du brouillard dans cette histoire, dans les dessins. Je trouve que c'est magnifiquement mis en page, magnifiquement raconté. C'est délicat, c'est pas féministe. Hein. On ne reproche rien à personne, il n'y a pas de reproche à faire. C'est la vie qui s'étiole, c'est ce que j'ai dit en préambule. Ben voilà, c'est un livre à lire lentement. Lentement, voilà, ça supporterait pas la vitesse, au jour le jour, pas forcément d'une seule traite. C'est à lire en prenant le temps de lire. Et c'est un livre qui a été écrit par deux femmes, Ingrid Chabert et Aimée Lelong. C'est une histoire de femmes qui, elles, ont 40 ans. Alors, je me suis posé la question, est-ce qu'un homme aurait su écrire ça, cette lassitude, cette fatigue, ou comprendre simplement? Mais qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Il n'y a peut-être justement rien à comprendre. C'est une tranche de vie sans projet défini, juste un besoin d'air, de respirer, de sortir la tête, de mettre la terre dans l'oxygène. Donc, merci à Dupuis et sa collection d'air libre d'avoir su accueillir cet ouvrage que je trouve magnifique dans l'histoire.
Et oui, on était plusieurs à le partager, ce point de vue-là, mm-hmm. sur cet album. Moi, je l'ai lu, alors je ne suis pas... c'est pas un scoop, mais je ne suis pas une femme. Hein. Et ça m'a plu beaucoup, cet album. Peut-être que j'en ai eu une autre lecture aussi. Moi, ça me rappelle... Enfin, moi, je me rappelle du monsieur, le mari, qui, du coup, quand elle s'en va après le gâteau, bah, il reste un peu... Un peu comme ça, quoi. Un peu,
La phrase des enfants, faire. Mais tu fais ça à papa, mais de quoi ils se mêlent les gosses. Enfin voilà, c'est une histoire de couple qui, ça s'étiole, c'est tout. Elle dit, il serait parti avant moi, c'est le premier qui part qu'à faux, quoi.
Ouais,
c'est tout,
ouais.
quoi.
Ouais, puis c'est sur le couple et les couples qui s'entassent comme ça, qui s'enlisent et puis qui ne bougent plus et que tout est, voilà, c'est comme ça, ce sera comme ça jusqu'à la fin. Eh ben non.
Ouais, non.
Eh ben non. D'un seul coup, on coupe tout et ça, c'est...
Et il n'y a pas de colère contre personne, hein, je dis bien. C'est pas un pamphlet contre je ne sais qui ou je ne sais quoi, non. C'est, voilà, c'est l'amour qui s'étiole, la vie qui s'étiole. Et que d'un seul coup, on se dit... Je sors de cette apnée.
Ouais, c'est vrai. Bon, c'est voilà, on valide.
Non, merci.
On valide pour le thème de l'amour. Hein, oui, c'est bon. Parfait. Alors, on va passer aux rencontres, parce que l'amour, c'est aussi des rencontres. Donc, les rencontres de Francine...
Oui, mes rencontres à Angoulême.
Les rencontres d'Angoulême, de Francine.
Alors, des rencontres à Angoulême, hein, il y en a eu beaucoup, plus belles les unes que les autres. Alors, impossible en 5 minutes, voire même un peu plus, de parler de toutes. J'en ai donc sélectionné les trois qui m'ont le plus touchée. Alors, primo, la masterclass de Luz, hein, dont l'album De Chinu, mon gros coup de cœur, hein, mon number one de l'an dernier, après avoir été entre autres lauréat du Grand Prix de la critique ACBD 2025 et du Prix Volinsky 2024, a été consécration suprême à Angoulême, couronnée du Fauve d'Or du meilleur album. Alors, un petit retour sur l'album quand même, hein, rapidement.
C'est une déclaration d'amour à l'art, une enquête historique, presque un thriller politique sur un survivant.
Déclaration de Luz. Merci Benoît.
Donc le survivant. Est enchanté de l'avoir dans le studio.
L'organisation est pas top.
Le survivant, un tableau. Dans De Chinu, paru aux éditions Albin Michel, Luz nous raconte à hauteur de tableau et non pas à hauteur d'homme, non seulement l'histoire de ce tableau, témoin passif d'un monde livré à la barbarie, qui sera tour à tour acheté, vendu, confisqué, exhibé, restitué, avant de couler des jours tranquilles à Cologne sur les 6 messes du musée Ludwig, mais aussi les histoires de ceux et de celles qu'il a croisées tout au long de sa traversée du XXe siècle. Alors, le 7 janvier 2025, hein, cela fait tout juste 10 ans, l'étiquette de survivant qu'on lui a collée à la peau, à Luz, hein, n'a cessé de le poursuivre. Pour partager son expérience de la survivance, plutôt que de parler de lui, il a donc choisi de le faire de manière détournée, à travers le prisme d'un témoin passif de l'histoire. Alors, l'album interroge également sur notre impuissance face à la marche du monde. Est-ce que l'on a envie d'être des témoins passifs de l'histoire, tels des tableaux accrochés au mur? Ou est-ce que l'on descend du mur pour interagir davantage avec le mur qui nous entoure? Vaste question. Oui. Alors revenons à la masterclass. Pour raison de sécurité, hein, n'oublions pas que depuis les attentats, l'US est toujours sous protection policière. Aucune publicité n'a été faite autour de l'événement. C'est donc dans une ambiance très intimiste que l'US, en interaction avec le public, est revenue sur tous les albums réalisés après les attentats, de Catharsis à De Finu, et c'était vraiment un moment magique, un pur moment de bonheur.
Et les moments hors du temps.
C'est filmé,
je ne sais pas si c'est filmé pour l'instant, je ne sais pas. Ouais. Et ça a été pendant près de 2 heures, il n'y a pas eu de pub du tout de fait. Fallait vraiment le savoir, quoi, tomber sur l'info comme ça par hasard, et ça a été la salle presque, même pas moitié pleine, hein, du coup, et c'était vraiment magique.
Ça a été assez fou en termes d'émotion aussi.
Ah oui, surtout que moi c'est mon... Bon, bref, donc ouais, c'était super.
C'est comme si tu allais voir un concert de justice, quoi.
Oui, c'est ça. Alors, deuxième, c'est la lecture musicale de Jacaranda, qui a été donc prix Renaudot 2024. Alors, lecture musicale par son auteur, bien sûr, hein, Gaël Faye, accompagné du guitariste Samuel Kamanzi, et n'oublions pas que nous sommes dans le temple de la BD à Angoulême, celui qui a signé l'adaptation graphique de Petit Pays. Je veux parler évidemment du dessinateur Sylvain Savoya, qui a illustré en direct les slams, lecture d'extraits de Jacaranda et rap autour de l'exil et de la mémoire. Alors un grand moment d'émotion aussi, qui s'est terminé par une standing ovation très chaloupée.
Bah, que d'émotion, dis-nous, à Angoulême.
Ah ouais, et puis un troisième.
C'est que de l'amour, en fait, tout
ouais.
ça.
Ah ouais.
Ah mais ça transpire quand tu le dis. Enfin, ouais. Ça transpire, le mot pas gracieux, ouais. mais ça émane, ça, ça rayonne, on va dire.
C'est quelque chose qui était vraiment fantastique. Alors la troisième, alors ça, je vous le conseille, hein, si vous ne l'avez pas lu.
Ah non.
Donc c'est cet album-là, alors c'est La Rencontre. Alors j'avais commencé ma chronique avec un gros coup de cœur de 2024 et je termine avec celui de 2025, Les Mémoires de la Shoah, qui parut en janvier dernier dans la collection Early Prix Albert Londres aux éditions Dupuis. Alors, une lauréate du prix Albert Londres incarnée dans la BD, un reportage du dit ou de la dite journaliste porté par un tandem scénariste-dessinateuriste, tel est l'ADN de cette nouvelle collection, dont Les Mémoires de la Shoah est le deuxième opus. Ici, en l'occurrence, la lauréate, c'est Annick Cogent, grand reporter au Monde. Le reportage, une série de 5 articles parus en 1995 lors du cinquantenaire de la libération des camps, dont nous commémorons cette année les 80 ans. Et la scénariste Thea Rojman et la dessinatrice Tama Baudouin. Alors, à Angoulême, j'ai eu la chance d'assister à une rencontre passionnante. Adapter le réel et plus précisément adapter la presse en bande dessinée avec Annick Cogent et un autre prix Albert Londres, Stéphane Marchetti, qui est le co-directeur de la collection et scénariste également du premier ouvrage consacré lui à Henri de Turenne, qui était paru en novembre dernier, de l'an dernier, pardon, sur le front de Corée avec Raphaël Ortiz au dessin. Et autre chance, j'ai pu également interviewer la scénariste Thea Rojman et la dessinatrice Tamia Baudouin. Alors, pour revenir sur les articles, déjà, un jeune journaliste, Annick Cogent, avait accompagné Simone Veil le 27 janvier 1995 à Auschwitz, lors de la commémoration de la libération du camp. C'est là qu'était née l'idée de ce reportage, réalisé de janvier à avril, et paru dans Le Monde fin avril, début mai de la même année, qui lui vaudra le prix Albert Londres. 5 articles, donc. Le premier, Les Voix de l'Indicible, donne la parole aux rescapés. Le deuxième, Les enfants miraculés, aux enfants de rescapés. Le troisième, Le fardeau des enfants de nazis, comme son titre l'indique, aux enfants des bourreaux. Le quatrième, L'impensable dialogue rencontre des rencontres entre enfants de rescapés et enfants de nazis. Le cinquième, enfin, Confrontation avec l'histoire, nous amène à réfléchir sur la responsabilité de chacun dans ce qui arrive collectivement et entre douloureusement en résonance avec l'actualité. Alors, album sur la mémoire et la transmission, le poids du silence et ses répercussions est au cœur même du sujet. Et je cède la parole à Annick Cogent.
Je suis journaliste et ce qui m'intéresse, c'est l'écho maintenant, les mémoires, comment elles se transmettent. Et donc, c'était d'aller sans doute voir est-ce qu'on faisait quelque chose pour recueillir la parole de ceux qui avaient tant à nous dire, de ce qu'ils avaient vécu, ce qui était juste inimaginable. Et comment ils en avaient parlé dans leur famille? Qu'est-ce qui se passait pour la deuxième génération? Qu'est-ce qui se passait pour les enfants de ces rescapés qui étaient revenus, qui avaient connu l'enfer et qui, malgré tout, avaient essayé de créer une vie, une famille, etc., avaient eu des enfants? Qu'est-ce qu'ils leur avaient dit ou pas dit? Qu'est-ce qui hantait cette deuxième génération? Qu'est-ce qu'ils savaient ou qu'est-ce qu'ils avaient imaginé? Quel type d'enfance ils avaient eu? Comment ils se comportaient dans la vie? Comment est-ce qu'on fait quand on a eu des parents qui ont vécu cette expérience folle? Et puis, m'interrogeant beaucoup là-dessus, j'ai entendu des choses incroyables. Et pour vous dire, parce qu'on va parler de l'adaptation justement qu'on a fait, la scénariste Théa Rochman, c'est que ces enfants, donc cette deuxième génération, les enfants de ceux qui étaient revenus de l'enfer, eh bien, se sentaient souvent comme des petits bourgeons sur des arbres calcinés.
Les petits bourgeons sur des arbres calcinés, une image qui a fortement marqué la scénariste Théa Rochman. Écoutons-la.
Et c'est Annick dans une interview qui parlait de ces petits bourgeons sur un chêne calciné. Et tout de suite, l'image m'a bouleversée. Et ça a tout de suite éveillé en moi carrément tout le dispositif narratif de cet album. Et voilà, c'est parti de ça. Et d'un seul coup, ça me paraissait, je trouvais que c'était beaucoup plus parlant, très symbolique, et que ça allait pouvoir s'adresser à tout le monde par cette espèce de métaphore géniale.
Alors ce petit bourgeon, il est déjà présent sur la couverture, discrètement posé sur la veste d'Annick, comme un contrepoint à l'étoile jaune.
Ah oui.
Dans l'album, deux fils narratifs vont s'entrecroiser. L'adaptation, ou plus exactement l'appropriation de ce reportage, mais aussi sa genèse, puisqu'Annick Cochamp est également un personnage. La journaliste devient alors un fil conducteur, permettant au lecteur de suivre l'enquête et éprouver les troubles qu'elle a pu ressentir. Les doutes, la colère, l'émotion qui parfois la submerge, le dégoût. La mise en scène, subtile et inventive de Théa, rend le récit extrêmement vivant et poignant, et évite à la fois l'écueil du didactisme et celui du pathos. On est dans l'émotion, oui, mais dans l'émotion juste.
En fait, ce que je voulais, c'était que les gens aillent vers ce sujet et ces reportages de façon presque émotionnelle, en fait, et pas rationnelle, pas avec leur cerveau, mais avec leur trip et leur cœur. Donc ça demandait à un peu transformer les reportages, les faire vivre dans un dispositif narratif un peu onirique, un peu presque comme un espèce de cauchemar, de grand rêve, qui nous ferait tous accéder plutôt à notre inconscient, en fait, notre inconscient collectif sur ces questions-là, et pas sur notre intellect et notre raison. Donc c'était particulier de proposer ça, et tout de suite, que ce soit les éditeurs ou Annick Cochamp, ont adoré cette proposition, ont tout de suite dit oui, m'ont fait une énorme confiance. Donc ça a été merveilleux parce que ce livre, c'est exactement ce que je voulais faire. C'est même mieux que ce que je voulais faire grâce à Tamia, voilà, qui a apporté, elle, cette sensibilité, ce génie artistique, graphique, qui vraiment a transcendé encore plus ma proposition, aller exactement dans le sens de ce que je voulais, mais en plus. Et alors, ça pouvait, franchement, le livre terminé est au-delà de mes espérances. Donc, je suis très heureuse de ce travail, très fière.
Alors, la narration graphique de Tamia Baudouin alterne scènes réalistes et scènes oniriques avec des métaphores visuelles très fortes. Le trait s'adapte au propos, très assuré dans certaines scènes, il s'estompe et va jusqu'à disparaître dans d'autres. En prêtant un style expressionniste dans certaines scènes, il se fait plus naïf à la David Hockney dans d'autres, le tout sublimé par une utilisation magistrale de la couleur. Alors, pour terminer, signalons que parallèlement à l'album, a été produite une web-série, Les Échos de la Shoah, de 3 épisodes d'environ 8 minutes, chacun composé d'entretiens inédits filmés par Lina, d'images d'archives, de propos d'Annick Cochamp et d'illustrations issues de la bande dessinée, à retrouver sur les sites de Lina Histoire et Lumni Enseignement. Les mémoires de la Shoah de Cochamp, Rochman, Baudouin, paru dans la collection Air Libre, prix Albert Londres, un album essentiel.
Eh bien, que dire après ça?
Moi, je trouve que je me suis vachement amélioré en imitation depuis Luz au début. Vous avez vu toutes les autres imitations que j'ai lues.
C'était pas mal. Ouais.
Là, on reconnaissait beaucoup mieux les auteurs.
Et en plus, l'ambiance derrière.
Oui, voilà, c'est tout un travail de beatbox.
Hein. Oui, bah, tu reviendras aussi dès qu'on a un truc à faire.
Je comprenais pas, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils me disent? J'ai raté une marque.
Non, c'était une blague nulle. J'ai essayé de la faire à chaque relancement de Francine. Et puis, elle parlait trop vite.
Je parlais trop vite, t'as pas pu faire. Eh ben voilà. Moi, une fois que je suis lancé, on m'arrête.
J'ai hésité à appuyer sur son bouton.
Oui, la prochaine fois, t'hésites pas.
Tu me tapes sur l'épaule.
Ah, voilà, okay. C'est ça.
Puis je te laisse la parole.
Ok.
Eh bien, merci beaucoup, Francine.
Ça a l'air super.
Ouais, tout à fait.
Ah non, mais franchement, c'est un bonheur. Moi, j'ai relu les articles, parce qu'on les trouve aussi, les articles. Et vraiment, Théa Rochman, elle a fait un travail absolument fantastique. Et puis, la dessinatrice aussi. Mais elles referont parler d'elles parce qu'elles sont bien, elles sont bien décidées.
Elles sont bien décidées à
travailler ensemble. Mmh. Ouais, elles se sont trouvées, ces deux-là.
Sur le même thème ou bien, tu sais?
Ah non, non. Bah, non. Bon, elles ont des projets communs. Alors, il faut dire en plus de ça que Tamia Baudouin vit au Japon. Ah, donc, voilà, tout se fait à distance, mais... Ouais,
en maintenant, les distances s'effacent avec tous les systèmes de réseau, etc. Quoi.
RCN bientôt au Japon.
Bientôt.
Ah,
mais...
En japonais.
Ah oui, ça serait pas mal.
En japonais, oui, c'est ça.
Bah, tu viendras faire la traduction.
Oui, bien sûr, je fais ça aussi.
Voilà, bon, bah, on va être dans le plus léger maintenant, hein, parce que...
Mais je sais qu'on a fait dans le lourd, là.
Mais... Ouais, on va alléger un petit peu la fin de l'émission avec un album que je vais vous présenter. C'est un album que j'ai découvert en fait pendant la préparation de la thématique. Ça s'appelle La Rencontre aussi, c'est une rencontre. C'est de Victor Usno et c'est aux éditions La Joie de Lire. Alors je connaissais ni l'auteur, ni l'album, ni la maison d'édition. Et je ne sais plus dans quel film j'ai vu ça. Comme on dit, je m'attendais à rien. Et pourtant, j'ai eu un vrai coup de cœur aussi. Je suis tombé vraiment sous le charme de ce
album. On tombe amoureux souvent dans cette émission, je trouve.
Ben oui, c'est le thème aussi de l'émission. Et donc, en premier, j'ai donc lu cette histoire, La Rencontre, qui est en fait la réunion de deux albums parus précédemment. L'un, c'était l'EP Au Pays des Lignes, en 2014, et l'autre, Le Chemin des Souvenirs, paru en 2016. Et franchement, en découvrant le dessin, moi, ça m'a fait un côté waouh. Alors attention, c'est pas du Brecht Evans, c'est pas du Miroslav Sekulic non plus. Tiens, entre parenthèses, profitons-en, ce dernier, Miroslav Sekulic, sera présent les 28, et 29 et 30 mars au Salon du Livre, d'ailleurs, et on en reparlera prochainement. Non, alors du coup, pour revenir au dessin de La Rencontre, c'est un dessin au crayon à billes bleues et au crayon à billes rouges. Alors, ce n'est pas la première fois que ce style-là apparaît. Il y en a d'autres qui ont été faits avec beaucoup, beaucoup de succès. Mais là, je trouve que ça matche vraiment bien. J'ai trouvé qu'il y avait une simplicité dans le dessin, une limpidité.
Tu ne l'as pas avec toi, ce livre ?
Alors, il faut faire preuve d'imagination parce que moi, je les ai en version numérique.
Ah.
Et merci d'ailleurs à l'édition, aux éditeurs. Voilà. Merci, Benou. Sinon, il faut que tu reviennes à chaque émission pour les voix, pour le visuel. Hop, voilà. Et donc, une facilité de lecture et d'appréhender l'histoire et qui m'a fait tout de suite plonger dans l'univers créé par l'auteur. C'est un monde fait de lignes, de formes géométriques, mais il y a aussi des courbes, des rondeurs plus organiques. C'est quelquefois très épuré, c'est quelquefois très dense. Il y a de tout. Mais parlons de l'histoire. Ah oui, au fait, l'histoire. Jean-Luc, s'il te plaît. On va lancer le tourbillon. L'histoire. Vous vous rappelez de ça ?
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui s'y...
Et l'histoire, moi, ça m'a fait penser un petit peu à ça. C'est la rencontre de deux enfants d'une dizaine d'années dans ce monde imaginaire. Et tout de suite, entre eux, ça va matcher. Ils vont s'amuser comme des petits fous. Ils vont courir, ils vont sauter, ils vont virevolter. Ils vont traverser des forêts, gravir des montagnes. Bref, c'est de la liberté à l'état pur. C'est une histoire d'amitié, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de vie. Voilà, c'est tout. Alors, c'est vrai qu'on est un petit peu à la croisée des chemins entre un album jeunesse et un roman graphique. C'est une histoire sans parole. Enfin, quand il y a des bulles, c'est pour y mettre des dessins dedans. Il y a très peu de cases, il y a beaucoup de pleines pages, de doubles planches. L'auteur joue avec les codes de la bande dessinée. Il s'en amuse, il nous amuse beaucoup avec cela. Alors, pas étonnant que, du coup, dans les références de l'auteur, on trouve des choses comme Philémon de Fred et Jean qui rit et Jean qui pleure de François Hérol. Alors, les éditions La Joie de Lire ont également eu la bonne idée de rééditer Les Amoureux en janvier de cette année. C'est de la même lignée, c'est avec les deux mêmes enfants, et c'est encore plus décalé, puisque les deux enfants, ils dessinent eux-mêmes le décor. Ils dessinent eux-mêmes les pages au fur et à mesure qu'on les ouvre. Hop, ils ont leur crayon, ils dessinent les lignes rouges et dessinent les lignes bleues. C'est formidable. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est sûr, on aime ou on n'aime pas. Des mauvaises langues du milieu professionnel pourront dire, comme on l'a entendu l'autre fois avec Thierry Martin et le balayeur des Lilas, « Oui, payer 16 euros pour un album qu'on lit en 10 minutes, faut quand même pas se moquer du monde. » Alors, moi je dis, si t'aimes pas, n'en écoute pas les autres. Pour ma part, ces deux albums sont comme des petits bonbons. Dès que j'ai un petit coup de blues, je plonge dedans et ça va tout de suite mieux. Voilà. Alors, si vous voulez continuer avec cet auteur, c'est d'ailleurs ce que je vais faire moi de mon côté, penchez-vous sur aussi La Brigade qui est sortie en août 2024. C'est un style graphique un peu différent, mais tout aussi particulier. Et c'est l'histoire de Merlin, l'enchanteur, qui est un peu sur le déclin parce qu'il a fait toutes ses aventures, et qui demande à son ami Pierrot, du coup, de lui créer une épopée digne de son prestige. Et alors là, il va faire toute une aventure et c'est aussi assez fabuleux. Un petit mot sur la maison d'édition. La Joie de lire, c'est une maison d'édition suisse créée en 1937 qui est spécialisée dans la littérature jeunesse. Et pour elle, le livre est conçu comme un espace de liberté, le livre comme une proposition qui ne fournit pas de réponse. Vous connaissiez La Joie de lire ?
Non.
Non ? Non plus.
Ça a l'air très bien.
Ben, ça a l'air très bien. Allez, je finis par une petite note de chauvinisme régional, puisque Victor Husneau n'est pas lorrain, mais est diplômé des Beaux-Arts de Nancy. Voilà, ceci explique cela, je pense.
Parlons de chauvinisme, j'ai quand même oublié quelque chose par rapport à Angoulême.
Ah.
C'est que notre ami Robin Dutrex, qu'on a reçu pour son album
«
Mamie n'a plus toute sa tête », a reçu un prix. Le prix Charlie Schlingo.
Schlingo, voilà. Et ben tout ça, on le mettra sur la page Facebook. Voilà, donc je rappelle, c'est La Rencontre de Victor Husneau aux éditions La Joie de lire, qui porte bien son nom, ma foi. Et ben l'émission est presque terminée, les amis. Merci beaucoup. Hein, on a fait un bon petit tour du côté de l'amour, je pense.
Sous toutes ses facettes.
Sous toutes ses facettes. On a découvert un auteur fabuleux avec Bénou. Bénou, on pourra te voir prochainement dans les festivals.
Alors, dans ceux qui arrivent relativement vite, il y a Ville et BD.
Ouais.
Oui, bientôt.
Sûrement le livre sur la place, je pense.
Ah, super.
Ouais. Je ne suis pas sûr à 100%, ce n'est pas dit encore, mais je crois. Ville et BD, c'est sûr. Peut-être avec Charles en plus.
Ah, c'est bien.
Ça pourrait être chouette.
Charles
Dutertre.
Voilà.
Charles, c'était Charles. Sur le Charles qu'il y avait.
C'est Charles. D'ailleurs, c'est lui le petit garçon dans Les Frissons.
Non, mais ça, c'est les hasards de la vie rigolos, quoi. C'est que moi, j'avais super envie depuis toujours d'appeler un personnage Charles.
Ah oui.
Quand j'ai commencé l'écriture, donc avant le commencer pour de vrai avec la BD, quand je faisais des nouvelles quand j'étais ado. Je voulais prendre un pseudonyme et ça aurait été sûrement Charles le prénom.
Ah d'accord.
Pour Charles Baudelaire, quoi.
Ah oui, voilà. D'accord.
Mais il y en a plein, des Charles Leroy, Charles de Gaulle, Charles Martel, Charles Licouture, Charles Baudelaire. Non, mais Charles Licouture. Non, mais il y en a plein, des Charles.
Non, vous vous trompez. Le seul et unique Charles, c'est Charles Ancé. C'est tout.
Donc, voilà.
C'est le seul. Bien, ben merci beaucoup.
Merci.
Les amis sortent le Petit Frisson numéro 2 au mois de mars et Léo la Terreur numéro 2 au mois de mars.
C'est
aussi.
Ça, le 5 mars, ouais.
Donc soyez à l'affût.
Carrément.
Et puis ben, nous, on se retrouve le mois prochain sur une autre thématique dont je ne me rappelle plus le nom. Mais on va préparer tout cela. À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.